Éphémère.
Flaubert Musique Radio.
La radio du lycée Flaubert à Rouen.
Flaubert Musique Radio.
Éphémère. À écouter sur zonedonde.org et 102.8 FM.
Le vendredi 19 avril de 10h
à 16h.
Allez, place à l'interview de la matinale. Notre invité ce matin, Adrien Nézé, conseiller municipal à la ville de Rouen, chargé de la jeunesse, de la vie étudiante et de l'Europe. Vous êtes également candidat au Parti Socialiste pour les élections européennes. C'est parti, il répond aux questions de Sofiane Degmani.
Bonjour Adrien Nézé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur FMR. Je vous le rappelle, vous êtes élu à la ville de Rouen en charge de la jeunesse et de la vie étudiante, mais également candidat aux élections européennes, aux côtés de Raphaël Glucksmann sous le slogan « Réveiller l'Europe », issu d'une alliance entre le Parti Socialiste et Place Publique. Alors on va parler avec vous de différents sujets en deux parties, d'abord sur la ville de Rouen, mais aussi un petit peu de la métropole, et on va parler enfin des élections européennes. Alors on va parler d'abord de Rouen. Quelles sont vos actions que vous avez prises en termes d'engagement vers la jeunesse depuis 2020?
Oui, merci beaucoup. Déjà, je suis ravi d'être ici. Je suis ravi d'être à Flaubert. Alors, moi, je n'ai pas été à Flaubert, mais mes petites sœurs ont été à Flaubert. Donc, voilà, c'est toujours agréable d'y passer. Ma délégation à la ville de Rouen, elle porte sur la jeunesse, la vie étudiante et l'Europe. Et cette délégation, elle est importante, au moins sur le sujet du symbole. Et en politique, les symboles, ça compte. Parce qu'elle associe jeunesse et Europe. Et à travers ça, ce qu'on veut incarner avec le maire, avec l'ensemble de l'équipe municipale, c'est l'espoir, c'est l'avenir. Et nous, ce qu'on œuvre depuis plusieurs années maintenant, mais en tout cas depuis 2020, j'ai souhaité, sur nos politiques jeunesse, mettre l'accent sur un certain nombre de choses. D'abord, c'est important de rappeler que on utilise le mot jeunesse, mais qui veut en réalité dire beaucoup de choses et parfois pas grand-chose en réalité, parce que la jeunesse, c'est quoi? C'est un moment de la vie qui commence à quel âge? C'est une bonne question. Et qui termine à quel âge? C'est une autre bonne question. Moi, j'ai 34 ans, j'ai des cheveux blancs. Est-ce que je me considère encore comme jeune? Je ne sais pas. Bon, en vrai, je me considère encore comme jeune. Donc, bon, après, il faut, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même préciser qu'en réalité, plus qu'une jeunesse, on parle des jeunesses. Et des jeunesses, pourquoi? Parce qu'il y a des parcours différents, des expériences différentes, des ambitions différentes et des envies qui est différente. Et donc, c'est compliqué d'avoir une politique qui soit unique. Néanmoins, nous, ce qu'on travaille beaucoup à la ville de Rouen, c'est la question de l'information. Et moi, j'y tiens beaucoup parce qu'aux sources de mon engagement, il y a la question de l'égalité des chances, la capacité à aller transformer, atteindre ses objectifs, ses rêves. Et en réalité, en France aujourd'hui, le système fait que, en matière d'information, soit on sait, soit on ne sait pas. Soit on sait quel est le bon parcours qu'il faut faire pour atteindre son objectif, soit on ne le sait pas, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc nous, à la ville de Rouen, on accompagne beaucoup les jeunes, toutes les personnes qui en ont besoin, un moment ou un autre, à travers un dispositif qui s'appelle l'information jeunesse. L'information jeunesse, c'est quoi? C'est un label d'État, donc c'est-à-dire que c'est une information fiable, de qualité, et aujourd'hui, le sujet de l'information, il est essentiel, puisque l'information, elle se trouve. Après, est-ce qu'elle est de qualité? Est-ce qu'elle est vérifiée? Et donc, on accompagne à travers des professionnels qui sont formés, les jeunes, à répondre à toutes leurs questions en matière de logement, en matière de transport, en matière d'orientation, en matière de mobilité internationale. Et donc ça, c'est un point sur lequel moi, je suis vraiment attentif et on a largement élargi ce champ depuis 2020. Et puis, l'autre axe peut-être sur lequel je voudrais insister sur qu'est-ce qu'on fait à la ville de Rouen en matière de jeunesse, la question de la mobilité. On y reviendra peut-être très certainement, mais moi, je crois intrinsèquement, au fond de moi-même, que la question de la mobilité, la capacité à voyager, la capacité à découvrir un autre pays, même une autre ville, en fait, c'est ce qu'il y a de plus fort pour s'émanciper et pour grandir. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, un moment ou un autre, alors surtout quand vous partez dans un pays étranger, quand on a la chance de pouvoir le faire, qu'est-ce qui se passe? Mais on se retrouve à devoir se débrouiller à travers la maîtrise d'une langue qui n'est pas nécessairement sa langue, mais du coup à apprendre. Et en fait, c'est comme ça qu'on grandit. Et c'est comme ça qu'aussi, on s'ouvre et on est obligé de ressentir une forme d'altérité, de rapport à l'autre. Et on évoquera tout à l'heure la question des élections européennes, très certainement, mais cette question de l'ouverture, de la tolérance, de la fraternité. C'est ça dont on a besoin en réalité en 2024. Et contrairement à d'autres qui prônent le repli sur soi.
Et du coup, comment vous faites pour aller voir ces jeunes? Vous allez les voir
Alors, très concrètement, merci de me ramener sur du concret. Très concrètement, donc ici on est à Flaubert, pas très très loin, donc on n'est pas très très loin des Hauts-de-Rouen. Et donc nous on a un local, qui s'appelle le Rouen Info Jeunes, qui est un local dans lequel à l'intérieur il y a des professionnels qui sont présents. Et puis on a une équipe qui est sur le terrain et donc qui va voir les jeunes en fait directement pour essayer de leur proposer un certain nombre de, alors soit de leur donner de l'information, leur proposer des parcours, leur proposer des, un certain nombre d'activités. Donc ça, sur les Hauts-de-Rouen, on est présent aussi à Saint-Sever, où on a des locaux à Saint-Sever. Et puis on a mis en place une information jeunesse mobile, c'est-à-dire qu'on essaye d'identifier les lieux où les jeunes sont le plus présents de façon à pouvoir répondre à leurs questions. Et donc c'est vraiment, c'est pas une formule magique, hein, mais moi je crois beaucoup au fait que avec des personnes qui sont présentes sur le terrain, qui peuvent créer des liens de confiance, eh bien ça permet d'apporter les réponses et les solutions et de permettre à des jeunes de construire un parcours tout simplement.
Et ces jeunes aussi, ils ont des problèmes, ils ont la précarité étudiante. Alors vous, comment vous luttez contre la précarité étudiante justement?
Oui, alors effectivement l'autre partie de ma délégation touche à la vie étudiante. La vie étudiante, c'est un moment particulier et que vous allez très certainement découvrir dans quelques mois. Parce que c'est un moment un peu privilégié dans lequel on apprend, dans lequel on rencontre des gens et dans lequel on se construit. Et c'est un moment un peu à part. Malheureusement, depuis plusieurs années, peut-être même plusieurs décennies, la qualité de vie, le niveau de vie des étudiantes et des étudiants se dégrade. Et tout particulièrement depuis la crise du Covid-19. Pendant cette crise, on s'est mobilisé avec la ville de Rouen et la métropole pour accompagner notamment des distributions alimentaires. Matériellement, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a accompagné des associations, notamment la Fédération des étudiants rouennais. On les a accompagnés logistiquement, techniquement, on a mis des salles à disposition. On a accompagné aussi des dispositifs culturels et on les a financés pour pouvoir acheter des denrées et les redistribuer. Donc on a lutté en ce sens. Est-ce que c'est suffisant? On répond un peu à l'urgence. La question, c'est comment on change durablement les choses. Et là, on a fait notamment la semaine dernière, le 14 avril, si je ne dis pas de bêtises, nous étions au conseil municipal de la ville de Rouen.
Qui était d'ailleurs un après-midi.
Tout à fait, pour la première fois d'après-midi. Ce qui donnera, j'espère, l'occasion à de nombreux jeunes à venir assister aux séances du conseil municipal. Parce que c'est une bonne éducation à la vie de la cité, en réalité, et c'est toujours intéressant. On a voté une motion, précisément, pour appeler l'État à prendre ses responsabilités. Et notamment en matière de précarité, il y a un sujet qui pourrait être très simple, alors qu'il demande un peu d'argent, évidemment, mais qui est très simple, c'est le repas à 1 euro au Crous.
Ouais.
Et ça, c'est une réponse concrète pour les étudiants. Et de même, la rénovation des logements étudiants Crous devrait aussi être une priorité du gouvernement. Et plus largement, l'enseignement supérieur public devrait être une priorité du gouvernement et de l'État.
Alors, on va parler maintenant d'un autre sujet sur la jeunesse. C'est la violence de la jeunesse. Hein. Le Premier ministre en a parlé hier, hein, vaguement. Mais quelles sont, vous, les actions de la ville à ce sujet? Est-ce que ça vous préoccupe?
Bien sûr. La question de la sécurité, notamment qui est liée à la sécurité nocturne, on a mis en place à la ville de Rouen depuis mai 2023, si ma mémoire est bonne, une brigade nocturne. Une brigade nocturne, c'est-à-dire qu'on a recruté 13 policiers municipaux dont la mission est de tourner de 21h à 4h du matin, du mardi au dimanche, pour apaiser l'espace public, pour être présent sur le terrain. Notamment la nuit, et c'est le but de cette brigade nocturne, notamment chez les jeunes, entre autres, en sortie des bars et boîtes de nuit, qui permet d'apaiser les choses. Donc évidemment, c'est un sujet. Après, on accompagne aussi de manière peut-être plus moins visible, mais ce que j'évoque sur la question de l'information jeunesse, ce que j'évoque sur la question de la confiance, sur la construction des parcours, c'est ça qui permet en réalité, à la fin, de sortir. Je crois que c'est le Premier ministre qui a évoqué cette spirale de la violence, mais le sujet, c'est quelle perspective on donne? Quelle perspective on donne aux jeunes d'emploi, d'insertion professionnelle, de construction d'une vie familiale? Et c'est à travers, en tout cas c'est ma conviction, la construction d'un parcours en cohérence avec ce qu'on a envie de faire, ce à quoi on croit, et ça tient beaucoup parfois à des rencontres, ça tient beaucoup parfois à la capacité à offrir des perspectives. Notamment, on a mis en place à la ville de Rouen récemment On a accueilli des jeunes stagiaires de 3e,
ouais.
Qui est une réponse pour moi concrète, dans le sens où bah, le stage de 3e, je ne sais pas si vous en avez fait.
Lui, il va faire son stage de seconde.
D'accord. Mais c'est une première expérience. C'est pas, alors, ça ne détermine pas un parcours de vie. Mmh. Ce serait un peu fort de dire ça. Mais en revanche, c'est une première expérience qui sort du cadre scolaire pour être dans un cadre plus professionnel, pour le coup, et qui permet en tout cas de se dire « Ah, bah, ça, j'apprécie, ça, j'aime moins. » Mais la réalité, c'est que pour avoir un stage intéressant, souvent, le facteur discriminant, c'est le réseau. Donc nous, à la ville de Rouen, on a dit bah, « Nous, on est une collectivité employeuse, il y a 300 types de métiers différents à la ville de Rouen. C'est une formidable opportunité pour découvrir ce qu'on peut faire. » Et donc, on a mis sur la table une centaine d'offres de stages pour les troisièmes qu'on a construit sur le temps d'une semaine et qui sont, des réponses durables à cette question, en tout cas, de la construction d'un parcours et, évidemment, de construction de perspectives qui offrent une vision et un avenir, je crois.
Ok, donc on va parler maintenant de la métropole. Hein. Ouais. Le 3 avril dernier, vous étiez avec vous accueillez quelqu'un, Raphaël Glucksmann, à Rouen. Donc vous avez visité plusieurs entreprises, donc l'usine Ebusco à Cléon.
Ouais.
Vous avez découvert quoi là-bas ?
Un endroit assez incroyable. Alors moi, j'avoue, j'ai un petit trophée. J'aime bien les usines, moi. Je trouve ça assez fascinant. Je travaille moi-même dans une entreprise industrielle, j'aime bien les usines. Donc on a découvert un lieu incroyablement silencieux, immense, mais incroyablement silencieux.
Ouais, c'est le bus électrique en même temps.
Exactement, ouais. Mais c'est des chaînes d'assemblage, donc on peut se dire quand même, voilà. Et donc vraiment, vraiment un endroit très, très bien, très propre, très agréable. Donc une chaîne d'assemblage de bus électriques. Mm-hmm. Ebusco, qui est une entreprise néerlandaise, qui fait le choix de s'implanter son siège français à Rouen.
Ouais.
Qui est la preuve, moi je crois, très concrètement, que en matière d'industrialisation et notamment de réindustrialisation, eh bien, on peut changer les choses. Le pouvoir politique peut changer les choses. La politique peut changer les choses. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer à travers Ebusco. C'est que on a fait en sorte qu'il puisse s'implanter dans l'écosystème de Cléon, donc l'écosystème historique de Renault-Cléon et de la voiture, mais qui fait sens. Et c'est ce qui nous explique, c'est qu'en fait, industriellement, il y avait des choses intéressantes, notamment en matière de compétences, sur les personnes qu'ils ont recrutées, mais aussi sur des sur beaucoup plus techniques, sur des points industriels. Et du coup, c'est assez intéressant que cette ligne de production, elle va desservir ensuite l'ensemble de l'Europe du Sud, et donc la France, l'Espagne et l'Italie notamment.
Et justement, et les bus électriques, ils devaient arriver sur les lignes Théor là, en septembre dernier. Mm-hmm. Est-ce que vous avez appris un peu plus sur la date à laquelle ils arrivent?
Alors, j'ai plus la date en tête de mémoire. Alors, l'inauguration, je crois que de l'usine, ça sera officiellement à la rentrée. Il nous a annoncé effectivement un peu de retard, mais en matière industrielle, et alors pour le coup, c'est aussi dans le cadre de mes fonctions professionnelles, en matière industrielle, le maintien d'un planning, il y a toujours, et surtout sur des technologies innovantes, la mise en œuvre opérationnelle,
Ça prend toujours du retard.
Il y a toujours un risque, mais de fait, parce que c'est quelque chose d'innovant, c'est nouveau. Le passage entre, globalement, le prototype, l'essai industriel et la mise à l'échelle, et ben, en fait, à chaque fois... Voilà, donc il y a toujours ces sujets. Donc, mais en tout cas, nous, c'est une volonté aussi, en tout cas la métropole de Rouen, de pouvoir accompagner aussi la transformation de notre flotte. Et il y a eu très récemment un accompagnement, il y a eu une signature en début de semaine de la Banque Européenne d'Investissement pour justement financer cette flotte de bus.
Ouais.
Et du coup, on était à 3 il y a quelques années, et là, on va passer à une centaine. Donc, ça permet aussi une mise à l'échelle.
Alors, d'ailleurs, vous avez un objectif de bus électrique, un pourcentage d'ici 2025. C'est 50%, je crois.
Oui, tout à fait. Absolument.
C'est tenable?
Bien sûr. À partir du moment où on arrive aussi à ce que les industriels aussi soient dans cette bonne dynamique de production. En tout cas, nous, on se bat pour ça. Tout le projet qu'on porte à la métropole, c'est un projet de transition sociale écologique. Et ça passe notamment et entre autres, par une flotte de véhicules électriques. Alors, et on en voit déjà quelques-uns, en réalité, dans Rouen.
De quoi ?
Des bus électriques.
On en voit beaucoup, oui. Déjà, nous, surtout les bus, on appelle ça standard, mais les bus standards, sont quasiment tous électriques. Donc, on va parler encore des bus. On en a entendu beaucoup parler dans la presse locale il n'y a pas longtemps, mais la métropole souhaite étendre la gratuité.
Ouais.
Donc, la gratuité, d'ailleurs, je le rappelle à nos auditeurs, qui est déjà mise en place depuis 2020, depuis le 5 septembre 2020, sur la journée du samedi. Ça sert beaucoup, apparemment. Mmh. Et vous, qui êtes conseiller en charge de la jeunesse, est-ce que vous pouvez nous dire davantage par rapport au public qui serait visé par cette extension ?
L'orientation, alors les travaux sont en cours, et pour le coup, je ne dévoilerai pas de secret de métropole, mais il y a une volonté, effectivement, d'étendre cette gratuité, et notamment, évidemment, la catégorie des jeunes. Alors après, où est-ce qu'on place le curseur ? C'est une question. Évidemment, étudier. Donc, il y a un groupe de travail qui est actuellement en cours avec des réflexions sur une extension. Et c'est l'horizon qui a été donné par le maire-président de la métropole. Et donc voilà, les travaux sont en cours et devraient aboutir prochainement.
Ce serait quoi, genre moins de 26 ans
Ouais, très spontanément, je pense à ça. Après, il faudra regarder effectivement dans le détail. Un point important quand même sur ce sujet de la gratuité des transports. Il y a toujours, c'est une question d'arbitrage politique, encore une fois, puisque le financement des transports, il peut être soit payé par l'usager, on paye son ticket, soit payé par le contribuable public, par l'imposition. Et donc, les transports gratuits, en réalité, c'est on fait le choix d'allouer une certaine somme au financement du transport public. Et donc le report du coup se fait entre usager versus contribuable, quoi. Donc ça, c'est un point important. Mais pourquoi nous on insiste sur ça et pourquoi on tend vers cet horizon? Parce que en réalité, ce projet de transition sociale et écologique, c'est bien social et écologique, et que on a mis en place un certain nombre de choses à l'échelle de la métropole, et notamment la ZFE, dont vous avez très certainement entendu parler. Mais la ZFE, qui est globalement donc une zone à faible émission sur un certain périmètre de la ville. Si on veut véritablement faire en sorte que les comportements changent en matière de mobilité, le vrai sujet, c'est d'offrir des alternatives notamment à la voiture individuelle. Et donc c'est pour ça qu'on a renforcé à la fois...
Avec le vélo.
Le vélo, entre autres, mais on a renforcé l'offre de transport. Mmh. En septembre 2023, il y a eu plus de 10% en termes d'horaires.
Les nouveaux réseaux.
Voilà.
Donc ça, c'est septembre 2022.
C'est 22 Merci de me le rappeler. On a étendu du coup le réseau, la fréquence horaire. Mmh. On a lancé en 2020 la gratuité des transports le samedi. Mais ce qui permet quelque chose de très simple, c'est que pour les personnes qui viennent depuis l'extérieur de la métropole, on se gare sur un parking relais, on prend le bus, c'est gratuit, on arrive en centre-ville. Et donc ça, c'est des choses efficaces. Effectivement, vous avez évoqué le vélo, qui est un dispositif aussi qui permet de louer à moindre coût des vélos électriques et donc de
même pouvoir... le libre service aussi.
Et même le libre service, évidemment, qui a été remplacé. Et puis des applications, notamment pour favoriser le covoiturage. Notamment si vous allez au niveau du nouveau écoquartier Flaubert, il y a Covoit ici qui permet justement.
Donc, notamment aussi pour la Barentin.
Pour la Barentin, exactement, parce que quand vous prenez la route le matin, c'est souvent embouché. Donc en fait, tout le sujet, c'est comment on fait en sorte qu'on permette le report modal sur d'autres modes de transport. Idem, ça doit être en 2024, la région et la métropole vont fusionner leur titre de transport. Donc c'est-à-dire que.
Oui, pour prendre le train.
Pour prendre le train sur le périmètre de la métropole. Et il y a des axes qui sont structurants. On a la chance dans la métropole de Rouen-Normandie d'avoir un réseau de ferroviaire assez fin, historiquement, parce qu'il y a la présence notamment de la gare de Triège de Sotteville, et donc on a un maillage qui est très fin, et donc qui pourrait permettre aussi de remettre en place un certain nombre de lignes. Et vous avez une ligne qui marche très très bien, qui traverse l'ensemble de la métropole, depuis Elbeuf jusqu'à Yvetot. Alors Yvetot n'est pas dans la métropole, mais vous pouvez aller jusqu'à Malonnet-le-Houlme notamment, et après Barentin. Et ça marche très bien, parce qu'en réalité, entre Rouen centre-ville et Malonnet-le-Houlme, là où il vous faut parfois 25 minutes, en train vous en mettez 8. Donc c'est un vrai gain de temps.
En bus c'est un peu plus long.
Mais en train en revanche c'est très rapide, très très rapide.
On va parler d'ailleurs d'un sujet. On l'a appris hier. Le maire de Rouen sur son compte Instagram nous a annoncé qu'il y aurait le premier grand événement étudiant, le samedi 25 mai prochain. Alors, il s'appellera En Roue Libre, En Rouen Libre. C'est un vrai jeu de mots. Je ne demanderai pas qui c'est qui a inventé ce jeu de mots, mais en quoi ça consistera exactement?
Ça part d'un constat. En quoi ça consiste? Faire la fête, clairement. Ouais. C'est l'objectif de cette journée. Mais si je reviens un peu sur la genèse, on a sur le territoire de la métropole de Rouen à peu près 50 000 étudiants pour 500 000 habitants.
Ouais. Ça fait un bon ratio quand même.
Ça fait un bon ratio, 1 pour 10. On est une grande ville étudiante en réalité. On doit être on est dans les 15 premiers territoires français. Mais cette image étudiante, elle n'est pas nécessairement perçue par l'ensemble des Rouennaises et des Rouennais. Et donc, notre objectif, c'est d'accompagner aussi cette vie étudiante, l'animation de cette vie étudiante. Depuis 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans, à la ville de Rouen, on porte un festival qui s'appelle les Azimuts. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce festival.
Oui, ça fait longtemps qu'on n'en a plus entendu parler.
Bon, il y avait encore, il n'y a pas si longtemps, encore des animations.
Ouais.
En gros, il y a deux événements qui sont très phares de ce festival. Une soirée à l'hôtel de ville pour les étudiants. Et donc, en fait, on remet les clés de l'hôtel de ville aux associations étudiantes qui, du coup, animent toute une soirée de 18h à 20h.
Et donc, on peut aller partout dans l'hôtel de ville.
Ouais, bien sûr.
Même sur le bureau du maire.
Absolument, même sur le bureau de 18h à minuit, pardon. Donc, même sur le bureau du maire, effectivement, qui est ouvert avec des animations. Il y a un plateau radio, d'ailleurs, généralement, dans le bureau du maire. Et donc, qui permet de mettre en valeur l'engagement étudiant. On a aussi... le tournoi de balai ballon qui est organisé par la FEDER, qui a lieu à la patinoire, Nathalie Péchala, qui regroupe des associations sportives, qui est un bon moment de rire. Et puis, il y a la Sub Cup qui est organisée par la Métropole, qui est un événement qui a lieu au Kind Arena et qui est une compétition sportive. Et pourquoi je cite ces trois événements? Parce qu'à chaque fois, ces trois événements, ils dégagent quelque chose de très fort, c'est l'énergie. L'énergie des étudiantes et des étudiantes de Rouen. Et notre idée est de le mettre davantage en valeur, et notamment de le rendre visible par toutes et par tous. Et donc, on a organisé ce premier grand événement étudiant en roue libre, qui aura lieu donc le 25 mai. Et avec...
Ça se passe où?
Alors, ça se passe dans plein d'endroits différents de Rouen. D'accord. Rive gauche, rive droite. Donc, place
Saint-Sever. Rive droite, ce sera le centre.
Place Saint-Sever, rive gauche. Place Saint-Sever, place de la cathédrale, devant le musée des Beaux-Arts, rue Jeanne d'Arc qui sera fermée pour l'occasion.
Elle sera piétonnisée.
Exactement.
D'accord.
Et donc, on aura des concerts, mais aussi une grande parade. On aura aussi un village associatif. On aura aussi un grand pique-nique. On aura aussi des animations à Saint-Sever le matin. On aura les Feder Games, qui sont des jeux organisés par la Fédération des étudiants rouennais, et donc qui permettra une pratique sportive mais ludique, notamment avec un mur d'escalade, avec du karting électrique, je crois.
Il va falloir beaucoup changer d'endroit dans Rouen pour
faire ça. En fait, l'objectif, c'est que tout ça soit particulièrement bouillonnant, quoi, et qu'il y ait plein d'endroits différents, et qu'on ait envie de picorer et qu'on ait envie de découvrir. Ça sera tout au long de la journée. Et donc, évidemment, on espère qu'il fera beau, parce que c'est mieux sous le beau temps.
Au mois de mai, en général
le 25 mai, normalement, il fera beau. Exactement. Donc, ça sera l'occasion de faire une belle fête. Et puis, surtout, et moi, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est aussi l'occasion de mettre en avant l'engagement. Et on l'a évoqué, je ne sais plus à quel moment c'était dans le journal, quelqu'un a évoqué la question de l'engagement. C'est Raphaël Glucksmann qui a évoqué cette question de l'engagement des jeunes. Et en fait, j'en profite pour préciser que l'engagement, en réalité... C'est un mot qu'on utilise beaucoup, très souvent, mais ça prend des formes très diverses. Ce que vous faites là ce matin, enfin toute la journée, c'est une forme d'engagement déjà. Et ça peut prendre la forme d'un service civique, ça peut prendre la forme d'un investissement dans une association. Et donc, on veut mettre en lumière, justement, tout cet engagement. Et donc, moi, notamment, je pense à des associations en médecine qui, chaque année, ils sont au nombre de 8 associations qui œuvrent pour des projets humanitaires dans plusieurs pays du monde. Et typiquement, c'est le genre d'initiative qui est trop peu connue et qu'on souhaite mettre en avant au cours de cette journée.
Ok, bon, on a parlé vraiment des étudiants, c'est bien. On va parler de l'Europe maintenant. Il y a des élections qui arrivent dans à peine un mois et demi. Vous êtes prêt? Vous êtes prêt, personnellement?
Bien sûr, absolument. Tout à fait. Enfin, moi, c'est quelque chose. Moi, je crois en l'Europe. Je l'ai évoqué tout à l'heure. J'ai l'intime conviction que l'Union européenne, que la construction européenne est une chance formidable. Une chance formidable parce que c'est des valeurs démocratiques, des valeurs de pluralisme, des valeurs de liberté de la presse, des valeurs de tolérance, de fraternité, de défense des minorités, de diversité culturelle, de mobilité, de paix, de santé. Et c'est ça qu'on doit défendre. C'est ça qu'on doit défendre.
Alors, comment on incite les jeunes à aller voter? Parce qu'on sait que beaucoup, l'absentéisme électoral est plus présent chez les jeunes. Alors, comment vous, monsieur Nézé, vous pouvez inciter les jeunes à aller voter?
Le vote, c'est une question de choix. C'est une question de choix. Et le vote, c'est un moyen d'expression. C'est un moyen d'expression parce que dans un système démocratique, c'est ce geste-là qui permet de dire ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas. Et Raphaël Glucksmann le disait tout à l'heure là, dans le petit interview que vous avez évoqué. Mais la réalité, c'est ça. Le bulletin de vote permet de dire est-ce que je veux une Europe qui protège ou, à contrario, est-ce que je veux une Europe qui
se fracture,
se défait, pousse au repli sur soi. Et c'est vraiment ça l'enjeu de ces élections de 2024, je crois, en Europe. Et qui plus est, parce qu'en 2024, et en réalité, et du coup, moi je m'adresse aussi à vous qui êtes un peu plus jeune que moi, mais c'est pas super simple en réalité d'être jeune. La crise climatique, franchement, c'est, enfin, il faut le dire quand même, on va être obligé de changer nos modes de vie, et on ne sait pas comment exactement. On l'accompagne, mais on ne sait pas exactement comment encore. Le retour des grandes menaces, et notamment la guerre.
Ouais.
La guerre qui est de retour sur le continent européen. Effectivement, ça paraît loin d'ici, mais la réalité, c'est que ça peut être assez proche aussi. Mmh. Les crises migratoires, liées au réchauffement climatique, entre autres. Les crises sanitaires, on a vécu le Covid, et demain, très certainement, que ces crises seront amenées à se répéter. Et donc, il faut se saisir de ce bulletin de vote pour exprimer un choix. C'est une question de choix. Et tout l'intérêt de se mobiliser, même s'il fait beau le 9 juin, même si on a envie d'aller faire autre chose, ça prend 10 minutes et ça permet d'exprimer une orientation, ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas. Et quand on ne s'exprime pas, c'est assez compliqué après de pouvoir dire « ouais, mais je ne le veux pas ». Il faut s'exprimer. Et dans un système qui est démocratiquement organisé, et c'est le cas en France, où on a la chance de pouvoir s'exprimer, ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Il y a une petite anecdote qui est, enfin anecdote non, mais un chiffre qui est intéressant, c'est que l'année 2024 est depuis l'instauration du système démocratique dans le monde, l'année où il y aura le plus d'électeurs. Il y aura 4 milliards pardon, de personnes qui sont appelées à voter, qui ont déjà été appelées, qui sont appelées à voter. Des grands pays, notamment les États-Unis, qui vont voter en novembre, la Russie a voté, l'Indonésie, l'Inde, qui est appelé à voter. Sauf que dans la évidemment l'Union européenne, sauf que dans la réalité, l'Inde notamment, on a quand même un système démocratique qui est de plus en plus verrouillé. La Russie, j'en parle même pas. L'Indonésie, c'est pareil. La réalité, c'est qu'en Europe, on a ce système. Et c'est ça qu'il faut mesurer, cette chance qu'il faut mesurer. Et pour mesurer cette chance, bah, il faut mettre un bulletin dans l'urne.
Merci beaucoup, Adrien Aizé.
Avec plaisir.
FMR.
Flaubert Musique Radio.
La radio du lycée Flaubert à Rouen.
Flaubert Musique Radio.
FMR. À écouter sur zonedonde.org et 102.8 FM.
Le vendredi 19 avril de 10h
à 16h.